Bonjour, je suis Marine Rowe, la productrice du podcast Vieille Branche. Tout au long de l'année, vous avez pu entendre des entretiens riches, passionnants, émouvants, avec des personnalités âgées de plus de 75 ans, issues du monde de la politique, des idées, de la culture ou des arts. Au micro de la journaliste Aude Loriot, ils vous ont parlé de leur vie, des temps actuels et passés, de ce qui avait évolué et de ce qui restait inchangé. Cet été, on a décidé de mettre dans vos oreilles certains des meilleurs passages de l'émission. Du mouvement MeToo à la source de leur engagement en passant par leurs propres expériences, nous parlons aujourd'hui de féminisme dans Vieille Branche. Retrouvez les voix de Christine Delphi, sociologue, Yvette Roudy, la première ministre du droit des femmes en 1981, Anne Sylvestre, auteur, compositrice, interprète, Henri Leclerc, avocat, et Danielle Merian, également avocate. Bonne écoute.
Vieille branche chez moi.
Une vieille branche.
Dans ma tête, j'ai toujours 18 ans.
Bonjour, je suis Aude Loriot et deux fois par mois, je rends visite à une vieille branche.
Je peux en dire plus long.
Découvrir.
De tout de la vie.
Évidemment que c'est important.
Je vous fais rencontrer des femmes et des hommes qui ont traversé les époques. Qu'ont-ils à nous apprendre? Comment voient-ils l'avenir? C'était mieux avant?
Je crois que les gens ne s'attendaient pas à ça. Les gens ne s'attendaient pas à ça et c'est vraiment formidable, quoi. Parce que pour une fois, c'est pas limité, disons, au cercle féministe, que ça soit dans la presse ou aux petits groupes qui existent. Il y en a beaucoup qui existent en France, mais ce sont tous des petits groupes. Donc je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qui va encourager toutes les femmes. Parce que là, ces femmes ont osé, d'une certaine façon, porter plainte, en tous les cas, porter leur indignation à vis-à-vis de ce qui leur avait été fait et qui passait pour une espèce de mal pas très bien, mais en tous les cas inévitable. Et maintenant, si vous voulez, toutes ces femmes, elles disent non, non. Ça n'était déjà pas inévitable, ça ne devrait plus être inévitable. C'est surtout ça qu'elles disent. Elles disent les deux, et elles disent, voilà, moi aussi j'ai été victime de ça. Donc on s'aperçoit du nombre de victimes, et on ne peut pas, on peut toujours essayer de le minimiser, comme le font des soi-disant grands intellectuels. Ils sont des grands réactionnaires, ce qui est autre chose. Et on ne peut plus dire que ça n'existe pas ou que ça n'est pas grave.
Donc ça marque un tournant pour vous.
Ça marque un grand tournant, je pense. Alors ça ne veut pas dire que ça sera suivi d'une action prolongée dans le temps, parce que le temps joue beaucoup là-dedans. Quelque chose qui est unique et qui ne se répète pas ou qui n'est pas poursuivi par des actions vis-à-vis des gouvernements, vis-à-vis des États, vis-à-vis de tout ce qui est public, hein, tout ce qui est l'administration, etc., tout ce qui est aussi les entreprises. Si ça n'est pas poursuivi d'actions vraiment directes avec des demandes très précises, par exemple de changement de législation, mais de changement des... de changement des règles internes dans chaque entreprise, si les patrons qui laissent faire ce genre de choses, qui les font eux-mêmes ou qui le laissent faire, continuent dans leur complicité, même si une complicité passive, avec l'effet de harcèlement sexuel, s'ils sont en fait du côté de leurs employés qui agressent les femmes, on n'obtient pas ça, et on ne l'obtiendra pas d'un seul coup, ça aurait été, je ne dirais pas un coup d'épée dans l'eau, mais ça sera vite oublié.
«
J'ai l'habitude de dire que rien n'est jamais acquis, c'est-à-dire qu'un recul est toujours possible. En cela, je crois que Simone de Beauvoir l'a exprimé beaucoup mieux que moi, d'une certaine façon. Et je pense qu'elle elle l'a dit très, très, très clairement. Rien n'est jamais acquis. C'est-à-dire qu'un recul est toujours possible. Il y a toujours un recul possible des droits des femmes. Alors, les droits des femmes, c'est beaucoup de choses et pas grand-chose en même temps. Ce qui m'a frappé, c'est que... C'est la relativité de ce que l'on peut faire. J'ai cru avec une certaine naïveté, lorsque j'étais en fonction, lorsque j'étais en mesure de faire bouger les lignes, je croyais que l'on pouvait aller rapidement. Et ce n'est pas du tout vrai. C'est pas du tout vrai. Le progrès est fait d'avancées et de reculs. Le progrès en général, d'ailleurs, hein, de même le progrès social. Et en ce moment, on reculerait plutôt.
J'aimerais qu'on revienne un petit peu sur votre parcours depuis l'enfance jusqu'à la ministre que vous êtes devenue et la femme d'aujourd'hui. Et donc, vous avez ressenti très tôt, au départ, quand vous étiez enfant, le fait que vous étiez moins bien traitée parce que vous étiez une femme, une fille. Vous racontez que votre père ne supportait pas de vous voir lire. C'est quelque chose qu'on a du mal à s'imaginer aujourd'hui. Vous auriez pu aller au lycée, vous en aviez les capacités, mais votre père vous a inscrite dans une école pratique pour être secrétaire. Vous êtes inscrite à des cours du soir ensuite pour avoir le baccalauréat. En bref, vous avez vraiment lutté et pour devenir celle que vous êtes. Et est-ce que c'est cette adversité-là qui a fait de vous une féministe ?
Oh, j'étais féministe de naissance, je crois, sans le savoir. Mais j'étais révoltée, en vérité. Je crois que j'étais toujours... J'ai été tout de suite très, très, très révoltée. Et je n'admettais pas qu'on me dise « ceci est interdit pour toi, mais autorisé pour d'autres », etc. Ce que mon père et la société ne se gênaient pas pour me l'exprimer. Donc, moi, je pensais que tout était permis à tout le monde et que c'était une question de volonté. Voilà. Je ne doutais de rien et je n'avais peur de rien, d'ailleurs. Mais je crois que j'étais une combattante de nature, par nature. Et je n'ai jamais accepté l'autorité paternelle qui était forte. Et je n'ai jamais accepté la suprématie patriarcale, qui était très forte aussi.
Féministe a cessé d'être un gros mot. Pendant très longtemps, c'était « Oh là là, comment vous êtes féministe ?» Ben oui, et on me dit, vous êtes encore féministe. Ben, je suis désolé, on ne change pas comme ça. Bon, maintenant, je continue. Tout ce que j'écris est écrit par une femme, et une femme consciente. Donc, moi, je sais comment ça se passe. Je veux dire, il y a des choses que j'ai écrites, par exemple, une chanson qui s'appelle « Non, tu n'as pas de nom » et qui est une chanson sur le choix entre l'enfant ou le non-enfant. J'ai écrit ça parce que je savais de quoi il s'agissait. J'ai choisi partie de ces femmes qui ont connu les avortements et les difficultés d'avoir ou pas un enfant. Donc, j'en avais assez que ce soit des vieux messieurs qui parlent de nos ventres, quoi. Moi, je sais, de l'intérieur, je sais ce que c'est. Donc, je dis. Et cette chanson, il se trouve qu'elle a été beaucoup, mais utilisée même dans les plannings familiaux, dans des manifs, dans des groupes. C'était une façon de dire, voilà, si je ne... Tu n'as pas de nom, ça veut dire que je ne sais pas si je te veux ou pas. Il y a eu même des femmes que ça a aidé à garder cet espoir d'enfant. Donc, c'est important. Et chaque fois que j'ai eu quelque chose à dire, je fais une chanson. Donc, j'ai écrit une autre chanson, par exemple, qui s'appelle Frangine, où je dis, tiens, on aurait dû, au lieu de se taper dans les pattes, au lieu d'être ennemis, au lieu de se monter les unes contre les autres, on aurait mieux fait de rester frangine.
Sur la aidé. Sororité.
Mais oui, c'est ça, c'est bien beau. Sûr. Oui. Et puis, enfin bon, tout ce que je... J'ai des convictions, en effet, oui, l'écologie, bien sûr, oui, je me méfie du nucléaire depuis toujours, oui, je suis évidemment féministe, oui, mais je suis aussi humaniste et je suis pour les gens, quoi, pour qu'on leur laisse la possibilité d'être eux-mêmes et puis surtout de ne pas se taper dessus. Quoi.
Et vous, diriez-vous que vous êtes féministe ?
Je ne crois pas qu'il y a beaucoup d'hommes qui peuvent oser se dire féministe quand on sait le passé que nous avons. C'est-à-dire cette tradition, cette société machiste dans laquelle on vit depuis si longtemps et auquel on s'est trop habitué, auquel on s'habitue. On parle beaucoup actuellement, bien sûr, du harcèlement sexuel, de tout ce qui remue un peu les consciences aujourd'hui, mais regardez la tradition de la paillardise, allez dans les dîners mondains et regardez les plaisanteries qu'on fait à la fin des repas. Et tout ça est d'une société où, effectivement, l'homme... Bon, pour le reste... oui, je me suis toujours dit féministe. Je me suis toujours dit féministe. Je me suis toujours battu pour ce que je considérais être le droit des femmes. Mais en même temps, est-ce que je n'ai pas moi aussi un certain nombre de fois raconté des blagues, eu des comportements qui étaient des comportements, bon, à mon avis, jamais au niveau du geste, jamais même au niveau de ce qu'on dénonce aujourd'hui, c'est pas mon style, mais au niveau de ce qui n'était pas une reconnaissance suffisante de ce qu'était la femme. Pourtant, j'avais ma sœur qui m'a appris quand même, bon, qui a beaucoup écrit là-dessus, et qui a écrit, Annie a écrit des livres, son livre « Parole de femme » est un livre qui ridiculise beaucoup l'homme, qui montre effectivement ses comportements masculins, ses comportements machistes. Donc, je peux dire que ça m'a formé aussi. Alors, je ne veux pas dire que je ne suis pas atteint de cette maladie générale qui est le machisme de la société. Je suis forcément atteint d'une certaine façon, mais en tout cas, je le combats et je continuerai à le combattre.
Je me suis mariée en 1961, je devais obéissance à mon mari. Je ne pouvais pas ouvrir un compte bancaire. J'ai eu des enfants en 1962, en 1964, il était le seul à avoir l'autorité parentale. Et c'est seulement après mai 1968 que notre gouvernement actuel ne veut absolument pas célébrer, hélas pour lui et pour nous. C'est après mai 68, où il y a quand même eu une révolution culturelle, bénie soit-elle, que nous avons pu petit à petit modifier les lois jusqu'à ce qu'à la fin du XXe siècle, nous ayons l'égalité en droit. Évidemment, pas du tout dans la vraie vie, puisque actuellement, mesdames, vous devez probablement être payées 30% de moins que vos camarades pour les mêmes responsabilités. Donc, il y a encore beaucoup d'ouvrages pour les femmes. Ce que j'explique à ma petite fille de 26 ans qui pense que c'est gagné parce qu'elle a été élevée normalement. Bon, mais comme elle commence à travailler, ça devient très intéressant pour elle de voir que sa grand-mère a raison.
Oui, elle va s'en rendre compte très vite, je crois. Bon, on a quand même une génération très féministe, puisque là, il y a des sondages qu'on a fait faire pour un article qui va sortir bientôt, que j'ai écrit. Et on a entre 2/3 et 3/4 des 15-25 ans qui se disent féministes.
Garçons et filles ?
Non, les filles.
Les filles.
Si on inclut les garçons, c'est un peu moins.
Moi, je suis très exigeante.
Et alors, oui, justement, bah, est-ce que vous vous décririez comme une féministe ?
Absolument. Je n'arrive même pas à comprendre qu'on puisse ne pas être féministe.
pour vraiment ne rien savoir de l'histoire, de la condition des femmes. Je m'intéresse à la condition des femmes dans le monde entier. Elle est épouvantable. Ça fait 6000 ans qu'on excise. Au moins 6000 ans, puisqu'on a une momie qui a 6000 ans et qui est excisée. Ça fait 6000 ans au moins que les hommes mutilent les femmes. Et il y a encore des êtres humains qui ne sont pas féministes. Il y en a encore qui veulent qu'on mutile les femmes. Et si on n'est pas féministe, on continuera de les mutiler. C'est un combat difficile, puisqu'ici en Europe, on n'excise plus depuis le 19e siècle. Nos chers toubibs au 19e siècle excisaient les femmes, puisque comme vous savez, nous sommes des hystériques, et que pour nous calmer, une seule solution, nous mutiler. Donc, il y a de l'ouvrage. Comment ? Je pose la question. Je ne dis pas comment peut-on être persan, je dis comment peut-on ne pas être féministe.
Hystérique, d'ailleurs, c'est un mot bien sexiste, puisque ça vient de l'utérus, et, c'est... et on l'emploie toujours allègrement.
Oui. Allègrement, nous sommes hystériques.
Vieille Branche est une émission de nouvelles écoutes présentée par Aude Loriot, réalisée par Aurore Meilleur-Mailleux, mixée par Laurie Galliani, coordonnée par Marine Roux. Retrouvez Vieille Branche sur Twitter, _ Vieille Branche, pour Instagram Vieille Branche NE et sur Facebook Vieille Branche Podcast. N'hésitez pas à vous abonner